Alors, on va commencer le chapitre 18. Mais avant de commencer le chapitre 18, comme le chapitre 18 c'est une nouvelle série, en fait dans le Tanya jusqu'à maintenant on a fait deux séries. La série de 1 à 8 et la série de 9 à 17. Donc vous avez en fait un recto verso. Je ne vais pas refaire 1 à 8 parce qu'on a déjà fait le condensé, mais si vous voulez vous pouvez garder la feuille après et voir le résumé. En fait dans le chapitre 1 à 8, on a expliqué la conception spirituelle du juif. Donc on avait parlé beaucoup de l'âme divine, de l'âme animale, de la structure de l'âme divine, de la structure de l'âme animale, les clipotes, le bien, le mal. Mais ça, je ne reviendrai pas dessus. Là, depuis le chapitre 9, on a commencé à parler du combat intérieur, du combat qui se passe en nous. C'est là qu'on a commencé à bien rentrer dans les détails. Donc si vous voulez bien, on va lire ensemble. On va prendre la page qui commence par 9 à 17. Comprendre le combat des âmes. On va lire ensemble en français, comme ça vous permet de pouvoir réviser après. Vous allez voir que des notions comme ça, que quand on les lit maintenant, ça va nous rappeler des notions qu'on a fait, ça fait pratiquement 6 mois qu'on est dessus, et on va retrouver des notions qu'on a étudiées. Ça, en fait, le chapitre 9, c'était en juin dernier. On avait commencé le chapitre 9. Juin.
6 mois déjà.
Ça fait 6 mois. Après, il y a eu juillet, etc. Donc, chapitre 9. Alors, chapitre 9, on a commencé à parler du combat. On a expliqué que le corps est comparé à une ville que plusieurs rois veulent attaquer pour la contrôler au maximum. Vous vous rappelez, on avait expliqué ça? On avait expliqué que notre corps est comparé à une ville. Et cette ville, pourquoi le corps est comparé à une ville? Parce que dans notre corps, on a des outils. Les outils, par exemple, c'est la pensée, la parole, l'action, c'est les membres de mon corps, tout ce qu'il y a dans mon corps. Et de la même manière qu'il y a des rois qui peuvent être en guerre pour vouloir, merci, prendre le contrôle de la ville, de la même manière, les rois, c'est qui les rois? Un roi, c'est le Yetzer Tov, le bon penchant, et un roi, c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et chacun des rois, il veut prendre le contrôle de la ville. Comme ça, on avait expliqué. Maintenant, on avait expliqué comme ça. Imaginez qu'il y a un pays, et qu'on dit à un roi, hein, deux rois, ils se battent pour obtenir le pays. Et que les deux, ils comprennent qu'ils ne pourront pas obtenir tout le pays. Bon, ils pourront conquérir telle ville ou telle partie de la ville. Est-ce que pour ça, le roi, il va dire, non, moi, s'il n'y a pas de tout, je ne prends pas? Ça ne marche pas comme ça. Il prend ce qu'il y a à prendre, en se disant,
je vais continuer à conquérir.
C'est la même chose. Dans notre corps, évidemment que le but de chacun, le but du Yetzer Hara, c'est de prendre le contrôle de tout le corps. Il veut que tout le corps, il pense comme un rachat, il parle comme un rachat, il agit comme un rachat, et que tout le corps, il agisse comme un rachat. Le but du Yetzer Tov, c'est que tout le corps agisse comme un tzaddik, qu'on fait que des divrei Torah, que de la Torah toute la journée, etc. Maintenant, chacun des deux, il sait très bien que dans la réalité, ça ne va pas se passer comme ça. Dans la réalité, la vie est beaucoup plus complexe que ça. Mais chacun des deux va quand même essayer de prendre un maximum de contrôle possible. Par exemple, si par exemple je vais débiter, d'accord, je sais pas moi par exemple, ça dépend qui c'est qui parle, mais si je vais débiter par exemple 1000 mots dans la journée, alors il y a une guerre entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara sur ces 1000 mots, combien de pourcentages seront bons, combien de pourcentages seront mauvais? Et même si le Yetzer Hara va avoir 5%, il est content, il dit bon j'ai gagné 5%. Je dis mais c'est rien 5%, non c'est pas rien 5%, 5% c'est important. Parce que tu as 5, tu peux arriver à 10, tu as 10, tu peux arriver à 15. Donc c'est une guerre. C'est une guerre constante. L'âme divine, elle veut tout gérer par la tête. Ça veut dire tout doit être maîtrisé, elle veut que tout soit maîtrisé, tout soit dominé, tout soit calculé. Et l'âme animale, son quartier général, c'est où? On avait dit, vous vous rappelez, c'est où? C'est le cœur, comme vous l'avez ici. D'accord? Donc l'âme animale, elle veut tout maîtriser par le cœur. Et donc, évidemment, le cœur, ça se maîtrise pas. Le cœur, c'est... D'accord? Ça part comme ça part, ça se maîtrise pas. Donc c'est une guerre, en vérité, qui peut jamais être résolue, parce qu'il y aura toujours la guerre. Et on avait expliqué que c'est comme dans une guerre. Même quand tu crois que c'est le calme, mais c'est le calme avant la tempête. Ça n'existe pas le calme. Quand deux personnes ils sont en guerre, tant qu'ils n'ont pas fait la paix, même quand tu crois qu'ils ont fait la paix, c'est pas la paix. C'est qu'ils se reposent pour reprendre chacun les positions. C'est la même chose quand il s'agit du Yetzer Tov et du Yetzer Hara. Il n'y a jamais la paix, ça n'existe pas. Et même si une personne il va croire dans sa vie qu'il a fait Teshuvah, et que ça y est, enfin, son Yetzer Hara il va le laisser tranquille, ça n'existe pas. Il n'y a pas à avoir des moments de pause, mais le roi est toujours là, il veut toujours essayer de récupérer la ville. Alors dans les mots, on va lire ensemble, d'accord, comme ça vous pouvez réviser. Donc le chapitre 9, le combat. Le corps est comparé à une ville que plusieurs rois veulent attaquer pour la contrôler au maximum. L'âme divine, qui est le premier roi, d'accord, veut maîtriser un maximum depuis la tête. Alors que l'âme animale veut maîtriser depuis le cœur, c'est les pulsions. Comment on vient d'expliquer? Chacun des deux cherche à diriger les sentiments, réflexions, amour et crainte dans sa direction. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire qu'en vérité, le corps, c'est un outil. Comme une voiture, tu prends une voiture. Qu'est-ce que tu peux faire avec une voiture? Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux construire, tu peux détruire. C'est comme un couteau. Voilà, on a un couteau ici. Marcel, à quoi ça sert un couteau?
coupé.
Marcel, il a coupé le thon avec. Mais il y a d'autres qui vont faire des bêtises avec un couteau. Alors un couteau, c'est bien ou c'est pas bien?
Ça dépend de l'utilisation qu'on lui attribue.
Donc le couteau en soi, il est bon ou il est mauvais?
Mais ça dépend.
Il est ni l'un ni l'autre. C'est un outil. Alors la réponse est qu'il est ni l'un ni l'autre. C'est un outil. Tu veux l'utiliser en bien, c'est du bien. Tu veux l'utiliser en mal, c'est du mal. Le rabbi, il amenait souvent l'exemple de l'atome. Voilà. Aujourd'hui, on fait des choses extraordinaires avec. Mais on peut faire une bombe atomique aussi avec. Alors, la capacité de la bombe atomique, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien et c'est pas bien, c'est un outil. Tu veux décider de l'utiliser en bien, tu peux l'utiliser en bien. Tu veux l'utiliser en mal, tu peux l'utiliser en mal. Ben, sachez que c'est exactement la même chose quand on parle de notre corps. Mon corps, il est bon ou il est mauvais? Il est ni l'un ni l'autre, c'est un outil. Ma bouche, elle est bonne ou mauvaise? C'est ni l'un ni l'autre. C'est un outil. Je peux l'utiliser pour véhiculer des bonnes choses, je peux l'utiliser pour véhiculer des mauvaises choses. C'est moi qui va décider, c'est mon problème. Et donc ça, c'est la guerre entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Qui va avoir le plus de temps de parole? Qui va avoir le plus de temps où il va maîtriser la situation? Et même s'il a gagné une minute de plus, chacun, il va s'estimer gagnant par rapport à ça. Ça, c'est le combat. Maintenant, une fois qu'on a compris le combat, on va comprendre maintenant ce qu'on a expliqué dans le chapitre 10, 11 et 12, que dans ce combat-là, il y a trois types d'acteurs. Il y a le tzaddik, le racha et le benoni. D'accord? Donc là, vous allez voir, on va être en terrain connu. Donc en fait, quand on dit qu'il y a Tzadik, Racha et Benoni, d'emblée, ce qu'on a compris, je pense, c'est un des grands chidushim du Tania, c'est que être Tzadik, c'est une conception. C'est une conception de l'âme. Ça veut dire que soit tu es conçu pour le devenir, soit tu n'es pas conçu pour le devenir. Et c'est comme ça.
Ça veut dire qu'on est avec, alors?
Oui, c'est une conception qui fait en sorte que tu as un moteur qui est conçu d'une manière qu'au bout d'un certain temps, ça va décoller. D'autres qui ne sont pas conçus comme ça. Donc on va expliquer tout de suite. C'est bon? Je ne vois pas tout le monde là, mais voilà. Donc, on a expliqué, chapitre 10, 11 à 12, qu'il y a trois types de conception d'âme. Le tzaddik, le racha, le benoni. Dans le tzaddik et dans le racha, il y avait le parfait et l'imparfait. C'est-à-dire celui qui est absolu et celui qui est non absolu. On a expliqué c'est quoi le tzaddik parfait. Qui se rappelle c'est quoi le tzaddik parfait? Tzaddik parfait, de toute façon on va le dire ici, c'est celui qui a gagné la guerre contre le Yetzara. C'est-à-dire qu'il n'a plus le Yetzara. C'est fini, il a tué son Yetzara. Comme David Amelach dit, il a tué son Yetzara. Ça veut dire qu'il contrôle entièrement son corps. Il n'y a rien qui lui échappe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'une fois il a une pulsion qui lui vient. Il n'existe pas. Il n'y a pas. Il contrôle entièrement son corps. Il n'a donc presque plus de pulsions négatives. Ça, c'est le tzaddik parfait. Comment se juge la perfection et l'imperfection chez le tzaddik? La perfection va se juger, on a expliqué, au niveau du dégoût du mal. Si le tzaddik, il a un dégoût du mal, un dégoût absolu du mal, ça veut dire que c'est un tzaddik parfait. S'il a un dégoût partiel du mal, ça veut dire que bon, il n'a pas envie de faire des avéras, mais de temps en temps, ça ne le dégoûte pas à 100%. Il n'a pas envie de vomir quand il voit une avéra. Ça veut dire que c'est un tzaddik imparfait. Mais dans tous les cas, il n'a pas de pulsion négative.
Mais à la limite, du dégoût, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est la maîtrise.
Vous avez raison. Vous parlez comme le Benoni. Le Benoni, c'est celui qui maîtrise. Le tzaddik, c'est pour ça que je vous dis, le tzaddik, c'est une conception. C'est une personne, à force de se travailler, à un moment, il y a un déclic qui fait qu'il se maîtrise complètement et qu'il n'y a plus de pulsion. Il n'a même plus besoin de se maîtriser puisqu'il n'y a plus de pulsion. Seulement, la seule différence, s'il va être parfait ou imparfait, tzaddik gamour dans les mots et tzaddik sheino gamour, est-ce qu'il est parfait ou imparfait? La seule différence, c'est est-ce qu'il a un dégoût absolu du mal ou est-ce qu'il a un dégoût partiel? Ok? Donc, parfait, imparfait. Alors, pareil, pour le rachat, il y a le rachat absolu et le rachat partiel. Le rachat absolu, c'est quoi? Le rachat absolu, c'est celui qui est complètement dominé par ses pulsions, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Le rachat partiel, c'est quelqu'un comme nous, c'est-à-dire de temps en temps, il se laisse aller, mais il se reprend. Il se laisse aller, il se reprend. Alors partiel, on peut être partiel, un peu beaucoup, un peu plus, un peu moins, mais c'est comme ça qu'on appelle le rachat partiel impartiel. Enfin, c'est là que j'ai accéléré parce que je vais arriver au chapitre 12. Enfin, dans le chapitre 12, c'est là qu'on a commencé, je pense, la partie principale du Tania. N'oubliez pas que le Tania s'appelle aussi Sefer Shel Benonim, le livre des Benonim. Ça veut dire, c'est pour ça que tout est orienté vers le Benoni en vérité. Parce que le rachat, on aimerait ne pas être. Le tzaddik, on a compris qu'on ne l'est pas. Parce que je continue à avoir des pulsions. Donc je ne suis pas tzaddik. Donc ça, je sais que je ne suis pas tzaddik. Rachat, j'espère ne pas l'être. Alors qu'est-ce que je peux devenir? Vers quoi je vais aspirer? Alors on te dit que tu vas aspirer à devenir un Benoni. C'est quoi le Benoni? Le Benoni, comme a dit M. Benita, il a des pulsions. Il continue à avoir des pulsions. Mais il les maîtrise tout le temps. Tout le temps, il maîtrise tout le temps les pulsions. D'accord? Il maîtrise les pensées, les paroles et les actions. On a expliqué dans le chapitre 12 aussi, vous l'avez ici en bas de la colonne du milieu, l'importance de la tefila pour le Benoni. La tefila est très très importante pour le Benoni. C'est un moment dans lequel il recadre. un moment dans lequel il se resitue par rapport à Kadosh Baruch Hu. Enfin, on a expliqué que pourquoi, quelle est l'arme ultime du Benoni, c'est que Dieu nous a créé d'une manière que le cerveau domine toujours, Michael,
le cœur.
C'est une base, ça. Donc ça veut dire comme ça, le tzaddik, il a de la chance. Lui, son Yitzhara ne l'attaque plus. Le Benoni, le Racha, il a pas de chance. Il est pris par son Yitzhara. Le Benoni, son Yitzhara l'attaque, mais son cerveau arrive à dominer son cœur. Et ça, toute personne a cette capacité que le cerveau peut dominer le cœur. C'est quelque chose que Dieu a créé chez chaque personne dans le monde. Et s'il n'y a pas ça, il faut aller voir un psychiatre d'urgence. Voilà. Parce que ça n'existe pas une personne que son cerveau ne domine pas son cœur. Ce qui peut arriver, c'est qu'à force de se laisser aller, j'arrive plus à maîtriser. Mais par définition, le cerveau domine toujours le cœur. C'est une base dans la Torah, parce que sinon, il n'y a pas de libre-arbitre. Sinon, il n'y a pas de libre-arbitre, sinon, il n'y a pas de punition, sinon, il n'y a pas de salaire. C'est une base que le cerveau domine toujours le cœur.
Des fois, le cœur, il a des impulsions avant le cerveau. Quand on voit
des pulsions, oui.
On voit une situation, ben, on réfléchit avec son cœur et pas avec sa tête.
L'émotion. Hein.
Oui, mais la différence est la suivante. Imaginez, par exemple, que vous marchez dans la rue et que vous voyez une belle femme. Ça vous arrive ?
Oh là là, tout le temps.
Je savais que...
Boum, dans le nez.
Tu as posé la question à toi. Hein.
D'accord.
Il a posé la question.
Et que ça commence du cœur, on est d'accord.
Ouais, bien sûr.
Ça vient des yeux, mais ça commence du cœur. Et que le cœur, il vous envoie des pulsions, il vous envoie des pulsions dans la tête. C'est possible que pendant quelques secondes, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de penser à ça. C'est possible. Vous êtes dans le rêve, etc. Le bonhomme, il est parti, il est ailleurs. Et après, au bout de quelques secondes, vous vous rendez compte. Tu te dis, mais attends, mince, c'est pas bien.
Ouais, c'est vrai.
Et là, t'as deux choix.
C'est trop tard.
Non, c'est pas trop tard. Là, t'as deux choix. Premier choix, tu te dis, je m'arrête. Mon cerveau va dominer le cœur. Là, j'ai fait une mitzvah. Deuxième choix, je continue à me laisser aller. Là, je fais une avéra. Mais tant que je me suis pas rendu compte, j'ai pas fait ni mitzvah ni avéra. Je vous donne un autre exemple. C'est un exemple qu'elle me suit dans le Tania. Les deux exemples que je voulais amener, c'est l'exemple du Tania. C'est pas par hasard que j'ai parlé d'une femme, parce que le chapitre 12, il a parlé des femmes. Il a parlé des femmes et de la colère. Ça peut arriver des fois, par exemple, dans la vie, des situations qu'on a, sans se rendre compte, t'as un truc qui t'énerve, et tu te mets à t'énerver. Mais tu te rends pas compte que t'es en train de t'énerver. Tu te rends pas compte que t'es en train de perdre le contrôle. Et au bout de quelques secondes, tu dis, mais attends, mais je suis en train de m'énerver, là. Et t'as, tu peux t'arrêter, mais c'est dur de s'arrêter parce que bon, t'es parti et bon, c'est un kiff, tu vois, t'étais là.
Quand on est dans le cœur de l'action, c'est un kiff
dans le sens. Je sens que je suis en train d'exprimer, tu vois, tu sens que t'es en train d'exprimer quelque chose d'important, et bah, tu sens, tu vois, t'es en train de prendre. Et là, tu dis attention, tu te rends compte, tu dis mais attends, doucement. Et là, pareil. Tant que je me suis pas rendu compte, je fais pas d'avéra. Dès que je me rends compte, si je me retiens, je fais une mitzvah. Si je me retiens pas, je fais une avéra. Il avait parlé de ça. Il a parlé aussi de la rancune. La rancune. Pareil. C'est-à-dire, des fois, par exemple, quelqu'un te demande quelque chose. Tu lui dis non. C'est pas même pas pourquoi t'as dit non. Tu dis non. Ta femme est dans le gueule. Tu dis non. Après, tu dis, mais pourquoi je lui dis non? Tu dis, attends, peut-être parce que, je sais pas, il y a quelque chose, que je lui en veux pour quelque chose. D'accord? Et tu te rends compte. Et là, c'est là que ça va se jouer. Est-ce que je vais être honnête? Je vais dire non, c'est de la rancune, il faut que je m'arrête. Ou bien est-ce que je continue? Toujours, donc, est-ce que ça va passer très rapidement d'une mitzvah à une avéra? Ah, pourquoi j'ai parlé de tout ça? Pour dire que le Benoni, il a des pulsions négatives, mais sa force, c'est qu'il arrive toujours à les maîtriser. Maintenant, après, on a eu un bloc, c'est le dernier bloc qu'on a fait, on l'a fait en deux mois, le chapitre 13 au chapitre 17. Pour expliquer, maintenant, on a plus expliqué le Benoni. Qui est le Benoni? Comment le Benoni fonctionne? Alors, on va faire un résumé, rapide. Ça, par contre, j'ai envie de le lire dans les mots. 13 à 17. Colonne de gauche. Donc, c'est la page... Alors, 9 à 17, donc vous avez 13 à 17, le Benoni, le héros du Tania. Voilà, le Benoni, c'est le héros du Tania, le Superman. Ok? Tout d'abord, rappelez-vous qu'on avait expliqué dans le premier chapitre du Tania, que chaque personne doit se considérer, même si tout le monde te dit que tu es tzaddik, heye be'enecha ke racha. À tes yeux, tu dois te considérer comme un racha. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Benoni ressemble à un racha. Pourquoi? Il est comme un rachat, parce qu'il a des pulsions négatives, donc il ressemble au rachat. Mais seulement, on a expliqué que concrètement, il se retient. Mais concrètement, il ressemble au rachat, parce qu'il a des pulsions négatives. Sa force, c'est quoi? C'est que tout en ressemblant au rachat, il arrive à se retenir.
Ouais, sauf qu'il en a moins, lui, par rapport
au rachat. On a expliqué, justement. C'est là qu'on a expliqué qu'il y avait deux types de Benoni. Il a quoi?
Il est à 100% le Benoni, non?
Le Benoni doit être à 100%, oui. Sinon, il n'est pas bénoni. Sinon, il est rachat partiel.
Sinon, il est rachat partiel.
Ouais. Il peut être rachat partiel à 1%.
Oui, d'accord.
Okay. Le bénoni, il est à 100% de maîtrise. 100% de maîtrise, mais peut-être 100% de pulsion.
Il est comme le tzaddik finalement, mais sauf que le
tzaddik,
sauf que le tzaddik, il n'a pas de pulsion.
Non, c'est faux, il est comme le rachat. Parce que dans la conception, il ressemble plus au rachat qu'au tzaddik.
D'accord, mais dans le résultat.
Ah, d'accord, moi je parle de la conception.
D'accord.
Okay. Au niveau de la conception, il ressemble plus au tzaddik qu'au rachat. Parce que le tzaddik, il n'a pas de pulsion. Le rachat a des pulsions, le bénoni a aussi des pulsions.
Mais le résultat, c'est le tzaddik.
Au résultat, il ressemble au tzaddik.
Au résultat,
tu as raison.
Pas les deux.
Tu as raison. Au résultat, il ressemble au tzaddik, mais dans la conception, il ressemble plus au rachat.
Oh, oui,
voilà pourquoi, dans le Pirkei Avot, on te dit, même si tout le monde te dit tu es un tzaddik, à tes yeux, tu dois te considérer comme un rachat. Parce que même si tu te vois dans la religion et tu vois que ça a l'air de bien aller, dis-toi qu'un jour le Yetzara peut ressortir. Comme le Benoni. C'est-à-dire que les pulsions, elles peuvent ressortir, tu sais pas d'où elles peuvent ressortir. C'est comme l'exemple du roi qu'on a donné au début. C'est-à-dire, tu crois que ça s'est calmé, que c'est fini, que tu l'as gagné, que l'autre roi, on n'entend plus parler. Et hop, tout d'un coup, il t'attend, il te prend par derrière et il te met par terre.
Mais il y a des choses quand même qui contredisent ça, ce que vous dites là. Par exemple, quand on dit Kol Israël Yishraim.
Même sur un résumé, il y a des questions, il est fort. Hein. Voilà. Allez-y.
Kol Israël Yishraim Chelek Ba'olam Abba. Ça, c'est une contradiction. Et dans la Haggadah, on dit Kulanu Hachamim, Kulanu Nibonim, Kulanu Yodaim Matatora. Ça aussi, c'est une contradiction par rapport à ce qu'il dit ici.
Pourquoi?
Eh bien, parce que là, il dit que il faut se comparer comme un rachat.
Non, j'ai pas dit qu'il faut se comparer comme un rachat. J'ai dit que conceptuellement, il sait qu'il est comme un rachat. Je vous donne un exemple. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui est pas religieux, qui fait les 400 coups, qui fait teshuva. Il fait teshuva et il sent plus qu'il a tiré vers les bêtises d'avant. Donc, il se sent immunisé. On lui dit, attention, ne crois pas que tu es devenu tzaddik. C'est pas parce que tu as pu attirer vers les choses là-bas que c'est fini. Ça peut revenir dans un an, dans 10 ans, dans 15 ans, tu sais pas quand ça va revenir. Ça peut revenir. Donc c'est pour ça qu'on te dit, dans ta tête, Heye be'enecha kerasha. À tes yeux, considère-toi toujours comme un rachat dans le sens, pas dans le sens, je suis un rachat. Chas v'shalom, je suis pas un rachat, je faute pas. Dans le sens, dans ma conception, ça peut revenir. Je suis pas un tzaddik. Un tzaddik, il a plus de pulsions négatives. Moi, je suis pas comme ça. Ça risque de revenir. Et même si j'en ai pas maintenant, c'est possible que ça va revenir. C'est là qu'on avait développé dans le chapitre 13, très important. Il y avait deux types de bénoni. Je pense qu'on va tous se resituer rapidement. Donc, différents types, l'érudit et l'homme d'affaires. J'avais expliqué qu'il y avait un type de bénoni qui était une personne qui avait finalement il avait de temps en temps des petites pulsions négatives. Mais bon, c'était quelqu'un c'était très très rare. C'est un bénoni, c'est très très rare qu'il ait des pulsions négatives parce qu'il est tout le temps en train d'étudier. Et bon, son etzara le dérange pas. Après, on avait expliqué qu'il y a le bénoni qu'on avait appelé l'homme d'affaires, c'est-à-dire celui qui est dans la vie de tous les jours, et que lui, son etzara, c'est pas une fois par deux ans qu'il le dérange. C'est 10 fois par jour qu'il dérange son etzara. Donc, c'est deux types de combats différents. D'accord? Mais les deux, en tout cas, ils sont considérés comme un rachat, dans le sens que, conceptuellement, ils doivent s'attendre au pire. Et c'est quand on s'attend au pire qu'on est paré pour le meilleur. Il faut toujours s'attendre au pire. Et c'est ça le message du Pirkei Avot. Alors, après, on était au chapitre 14. Chapitre 14, on a expliqué que chacun peut être bénoni. C'est donné à tous. Être tzaddik, c'est pas donné à tous. Être bénoni, c'est donné à tous. Parce que chaque juif est prêt à donner sa vie pour Dieu. Il faudrait en faire de même pour les mitzvot. Ça veut dire, il avait expliqué un principe très simple. Il dit, regarde, tu vas voir un juif qui fait pas la Torah, qui fait pas les mitzvot. Tu lui dis, un jour, on vient le voir, on lui dit, rentre à l'église et convertis-toi. Il dit, non, ça je fais pas. On va te tuer. Eh ben, tuez-moi. Pourquoi tu te laisses tuer pour ne pas te convertir? Et pour manger une bêtise, tu te laisses aller par ton etc. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué qu'en vérité, le Benoni comprend que tout démarre à cause de la folie du etc. Le etc te rend fou. Le etc te fait croire et te dit, manger quelque chose de pas cachère, c'est pas grave. Rentrer dans l'église, c'est grave. Qui a décidé que ça c'est grave et ça c'est pas grave? Les deux sont graves. C'est la volonté de Dieu. Seulement, la folie du etc, elle fait qu'il te fait croire ça. Et ça, c'est le travail du Benoni. La technique qu'a le Benoni, c'est que le Benoni, il réfléchit à ça. Il se dit, je sais que mon Yetzara est en train de me faire croire que c'est pas très grave, mais le Benoni se travaille. Et le Benoni, c'est chacun de nous qui peut devenir comme ça. Il se travaille, il se dit, attends, chaque avéra est importante pour un Kadosh Baruch Hu. Donc chaque avéra est importante, chaque avéra, je dois me retenir. C'est chapitre 14. J'accélère un peu, hein, parce que je vais arriver à la suite. Dans chapitre 15, on a expliqué que le Benoni, finalement, on avait expliqué qu'il y avait deux types de Benoni. Il y avait un Benoni bosseur et un Benoni habitué. Alors, on avait donné, David, il va se rappeler certainement des définitions. On avait dit, il y avait le Benoni, comment on l'appelait? Babakoul, comment on l'avait appelé? Voilà. Rappelle Baba Cool. On avait dit, il y avait le Benoni, d'accord, qui constamment en train de se battre avec son Yetzer Hara. Et il y avait le Benoni que bon, Baruch Hashem, il prend une vitesse de croisière. Et on avait expliqué quelque chose de très important. Ça, pour moi, c'est un chapitre très très important, chapitre 15. Il avait dit comme ça. Il a dit, il y a des gens qui pensent que quand ils sont constamment en train de se battre avec leur Yetzer Hara pour les mêmes choses, bah, ils pensent qu'ils sont passés à côté. Ils disent, c'est pas possible, ça marche pas. C'est que ça marche pas, c'est comme dans une affaire. Ouais, dans une affaire, quand tu te lances, que tu vois que tu butes à chaque fois sur le même problème, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis, c'est pas possible, ça marche pas. Il avait expliqué quelque chose de très important. Il avait dit que le Benoni, il va pas juger son travail par rapport au résultat. Il va juger son travail par rapport à l'effort fourni. Et donc, il avait expliqué, il avait amené la Gemara, qui disait que tu peux avoir une personne, un Benoni, qui travaille très très, ça veut dire qu'il se travaille très peu parce que c'est une habitude. Quand il arrive en haut, Dieu lui dit, toi, tu m'as pas servi. T'as pas été un évêque, t'as pas été un esclave, t'as pas travaillé. D'un autre côté, tu as un autre. Au niveau du résultat, peut-être qu'il a obtenu rien du tout, parce qu'à chaque fois, il remplit le verre, il le reverse, il remplit, il le reverse. Mais comme c'était dur pour lui, pour Akadosh Baruch Hu, ça vaut plus que tout. On avait donné l'exemple aussi des... Vous vous rappelez le taxi, celui qui partait, l'exemple du taxi avec les ânes, que pour quand on voulait rajouter une journée, celui qui révisait 101 fois, la fois supplémentaire, ça valait plus que tout, parce qu'il a cassé son habitude, il a fait plus que son habitude.
Alors, à un moment, quelqu'un qui est né dans une famille très religieuse, pratiquante et tout...
Il a moins de mérite, évidemment.
Il aura moins de mérite,
c'est sûr, évidemment, c'est sûr.
Non, mais il est condamné pratiquement à avoir moins de mérite.
Oui, il est condamné à chercher d'autres challenges.
Il est condamné à faire des efforts.
Il est condamné à chercher d'autres challenges. Il est condamné à chercher à faire des efforts. S'il n'y a pas d'efforts, c'est pas bon.
Oui, mais ici, justement, pour arriver, il est dans une famille très religieuse, on l'apprend tout, il est petit, tout ça. Il n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour arriver au.
Ben, c'est pas bon.
Alors, c'est pas bon. S'il n'y a pas d'efforts, c'est pas bon. Ça veut dire pour le tzaddik, c'est pas bon. Il ne fait aucun effort.
Ben, mais vous avez raison. On avait expliqué que le tzaddik, c'est très difficile pour lui parce que le tzaddik, il ne sent pas le besoin de se dépasser. Parce que ça fonctionne. Quand ça marche, ça marche.
Donc il n'a pas de mérite, lui.
Ben oui. Il n'a pas le même mérite que le Benoni. Il a d'autres mérites. Il va faire du chiffre. Mais il n'a pas le même mérite que le Benoni. Le Benoni, son mérite, c'est quand il va casser son Yetzer Hara. Enfin, dans chapitre 16, après on avait chapitre 16 et chapitre 17. Chapitre 16, on avait expliqué, chercher à changer par la méditation. Le Benoni sait qu'il a, rappelez-vous qu'on est dans la chassidoute Chabad, que Chabad c'est les initiales de Chorma, Bina, Dat. Ça veut dire que Chabad c'est la réflexion. Que dans la chassidoute Chabad, on accorde une grande importance à la réflexion. Et donc c'est pour ça que le Benoni sait que son arme ultime pour se battre contre les Tzahara, c'est quoi? C'est la réflexion. La réflexion, réfléchir, penser à Kadosh Baruch Hu, et se dire que même si à un moment je crois que c'est simulé, c'est pas grave, il faut continuer, parce que ça finira par décoller, je dois continuer à chercher, je dois continuer à méditer, à réfléchir à Kadosh Baruch Hu. Enfin, chapitre 17, on avait terminé avec ça. Kikarov et Lecha, on avait dit que le but est l'action concrète, ce que tu as dit Michael, à juste titre, d'accord? Et tu as dit que, qu'est-ce qu'on a expliqué? Que Béhémeth, le Benoni sait que changer sa nature, c'est très difficile pour un Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et que le but de tout ça, c'est de réussir à essayer d'aimer et craindre un Kadosh Baruch Hu. Donc si on pouvait résumer en un mot, voilà, en un mot. Voilà, là je l'ai fait un peu long, vous pourrez le réviser chez vous à la maison, c'est bon de le revoir, parce que vous allez voir que toutes ces notions-là, on les a revues. Mais si on pouvait résumer en un mot, ce qu'on a compris, c'est qu'on a expliqué dans ces trois colonnes qu'on a devant nous, dans la première colonne, on a expliqué le combat. C'est comme dans un match. Tu as le jeu, les règles du jeu, tu as les joueurs, d'accord? Et après, tu as la manière comment les joueurs jouent. C'est-à-dire, tu as la théorie, tu as les joueurs, et tu as la pratique comment ils jouent. C'est comme ça que ça marche, David?
Oui.
Alors, c'est-à-dire, tu as l'entraîneur qui explique comment le jeu aurait dû être. Après, tu as les joueurs, et après, tu as la manière comment les joueurs vont jouer. Donc, c'est la même chose. Dans le chapitre 9, on a expliqué le combat. Quel est le but du combat? Le but du combat entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, c'est de prendre un maximum le contrôle du corps. Donc le Yetzer Tov veut prendre maximum le contrôle de tout le corps. Chapitre 10 au chapitre 12, on a expliqué les acteurs. Il y a trois types d'acteurs. Il y a un acteur qui s'appelle le Tzadik, un acteur qui s'appelle le Racha, et un acteur qui s'appelle le Benoni. Chapitre 13 à 17, on s'est focalisé sur notre acteur principal qui s'appelle le Benoni. Et on a expliqué comment le Benoni, c'est une personne qui a des challenges dans la vie, c'est difficile pour lui. Mais concrètement, il s'efforce toujours à méditer, à bosser, d'accord, à croire qu'il peut le faire, à croire qu'il va le faire, à essayer de changer sa nature, à continuer à croire qu'il peut devenir Benoni, à se convaincre qu'il ne doit pas écouter la folie du Yetzer Hara, et à se rappeler qu'il est comme un rachat en vérité, qu'il peut toujours tomber. Et ça, c'est le travail de toute une vie. C'est-à-dire qu'en vérité, toute la vie, le Benoni, c'est une personne qui bosse toute sa vie pour essayer de devenir Benoni, pour essayer d'arriver à se maîtriser, à maîtriser ses pulsions. Ça, c'est ce qu'on a expliqué au chapitre 9, au chapitre 17. Est-ce que tout est clair jusqu'ici? Tout est clair? J'ai pas de question, c'est-à-dire tout est clair ou tout n'est pas clair? Alors, ok, très bien. Bon, c'est important pour moi de faire un résumé, même si c'est du déjà vu. Mais c'est important de faire pour moi de faire un résumé pour voir comment il y a vraiment une structure et comment on avance dans une direction. Ok. Maintenant, dans chapitre, on va commencer un nouveau bloc. 18 à 25. D'accord? Non, là, vous n'avez pas dans les feuilles. Maintenant, on va prendre le Daniel. Ok. Alors, je vous donne le programme. Chapitre 18 à chapitre 25, on va aller beaucoup plus dans, le sens profond des choses. J'explique ce que je veux dire. Je veux dire comme ça. À partir du chapitre 25, 26 plutôt, on va parler de cas spécifiques, comme comment obtenir la joie, comment combattre l'anxiété, comment combattre la déprime, comment des choses spécifiques. Mais ça, c'est à partir du chapitre 26. D'accord? Mais vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas commencer du chapitre 26. Il faut d'abord passer par ces chapitres-là. Dans ce chapitre-là, ce qu'il va faire, c'est très intéressant. Si vous voulez, il va essayer de tout analyser à la source. Là, par exemple, aujourd'hui, dans le chapitre 18, ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui, on va faire que commencer. Il va expliquer, par exemple, comment on peut comprendre la puissance d'une neshama. Des choses comme ça. Comment on peut comprendre la puissance d'une neshama? Pourquoi une neshama a une puissance? Parce que là, quand on lit tout ce qu'on vient de dire maintenant, on a l'air de comprendre que même une personne qui est comme un rachat, on n'arrête pas de dire que la neshama a une puissance et que finalement, il peut gagner. On n'arrête pas de parler de ça, de la puissance de la neshama. D'où vient cette puissance de la neshama?
Mais de quelle neshama?
De l'âme divine. D'où vient cette puissance de la neshama? Donc on va expliquer pas mal de notions comme ça. Donc en vérité, du chapitre 18 à 25, on va analyser qu'est-ce que c'est la neshama, la puissance de la neshama, la relation qu'il y a entre la neshama et Dieu. D'accord? On va expliquer aussi la relation qu'il y a entre un juif et Dieu au travers de la Torah. On va rentrer beaucoup plus dans la profondeur des choses. Alors c'est les chapitres qui vont être pas philosophiques, mais à mon avis c'est les chapitres très 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 importants. Parce que à un moment, quand on va avancer, on est obligé d'ouvrir le capot. Voilà, c'est-à-dire, quand le moteur ne fonctionne pas, il faut ouvrir le capot, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, le thème, ça va être la neshama. D'accord? La neshama. Après Bezrat Hashem, on parlera de la relation entre la neshama et Dieu. Après, on parlera Bezrat Hashem de la relation entre la neshama et la Torah. D'accord? Et après, on commencera à parler de problèmes spécifiques comme la joie, l'anxiété, etc. Et déjà, maintenant, on va rentrer en chapitre 18. Alors, on y va. Chapitre 18, c'est quelle page?
235.
Alors, dans ceux qui ont le Tania rouge, c'est la page 46. Et ceux qui ont le Tania
235.
Alors, mais c'est l'introduction, ça certainement.
34, c'est tout en français. Alors.
Ouais, donc 34, c'est, oui, 234, c'est l'introduction. On va passer maintenant au chapitre 18. Ok. Merci.
C'est toi qui l'as écrit.
Ouais. C'est personnalisé, hein?
Ouais,
c'est un copain, mais enfin, faut travailler après. Ok. Alors.
C'est un organigramme, là.
Oui, un organigramme, exactement. J'ai pris des programmes d'organigramme en informatique, des programmes qui sont faits pour ça. Alors. Ou Tosef Adbiour, parce que c'est très organisé, le Tania. C'est très, faut savoir que quand le Morazakan a écrit le Tania, il a réfléchi pendant des années avant même de commencer à l'écrire. Sur la structure, comment il devait structurer le Tania. C'est-à-dire que, chaque chose est à sa place. C'est pas par hasard que maintenant on parle de la neshama. Quand on revoit la structure, on comprend qu'avant de parler du combat, il fallait d'abord parler de l'âme divine, de l'âme animale, de la structure de l'âme divine, de l'âme animale. Et après, on va commencer à expliquer le combat et les acteurs. Mais ça veut dire que il nous amène vers une direction. On avance ensemble. D'abord, on définit les éléments de base. Après, on définit comment se passe le combat. Et après, maintenant, on va analyser au jour le jour comment ça se passe. Donc, on va parler maintenant de chapitre 18, on va commencer à parler maintenant de la neshama. Ou Tosefet Biur Ba'eretef. Pour essayer d'expliquer de manière plus élargie, mieux expliquée, Milat Me'od, je ne sais pas ce qui Kikarov et Lecha d'avoir Me'od. Alors là, il pose une question très simple. Il dit, c'est écrit comme ça. On a dit, Kikarov et Lecha d'avoir Me'od, Beficha ou Vilvafra la Soto. Rappelez-vous, on avait fait le cours sur ça dans le chapitre 17. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu dans son testament avant de partir? Il s'adresse au Bnei Israël, il leur dit, mais c'est facile, c'est accessible. C'est accessible, Adavar Me'od, Beficha, Uvil Vafra, La'asoto. C'est accessible dans ta bouche, dans ton cœur et dans l'action. On avait expliqué que ça correspondait aux trois choses qui sont la pensée, la parole et l'action. Et que Moshe Rabbeinu, en vérité, il s'adresse à chacun de nous, et il lui dit, mais c'est accessible. Qu'est-ce qu'on te demande? On te demande de contrôler ta pensée, ta parole et ton action. Si tu réussis à maîtriser ta pensée, ta parole et ton action, t'as tout gagné. Maintenant, le reste, tes pulsions, t'en occupes pas. Toi, tu t'occupes de maîtriser ta pensée, ta parole et ton action. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que Moshe Rabbeinu, il a employé un mot qui dérange. Il a dit Kikarov elecha adava me'od. Me'od en hébreu, ça veut dire quoi? Me'od. Me'od, ça veut dire quoi, me'od? Alors, ils sont où les... Beaucoup. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'est pas Stam qui l'a dit, c'est accessible. Que finalement, ce qu'on te demande, c'est de maîtriser ta pensée, ta parole et ton action. Il a dit Kikarov elecha adava me'od. C'est très accessible. Quand on dit très accessible, ça veut dire que c'est facile. Quand tu dis accessible, ça veut dire que tu peux y arriver. Mais c'est pas forcément facile. Mais Moshe Rabbeinu, il a dit très accessible. Quand je dis très accessible, ça veut dire que c'est facile. Et ça, ça nous dérange. Parce que tout ce qu'on vient d'expliquer ici maintenant, honnêtement, est-ce que c'est facile?
Non.
C'est le travail d'une vie, ça, c'est pas facile. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il dit me'od? C'est pas me'od. C'est pas très accessible. C'est accessible, mais c'est pas très accessible. Très accessible, ça veut dire que c'est là. Il suffit juste que j'envoie ma main et je l'attrape. Non, c'est faux. C'est pas comme ça. Donc, pour comprendre ça, on va devoir expliquer la puissance de la Neshama. Que la Neshama est un outil qui est tellement fort que si on apprend à l'utiliser, c'est très accessible. Notre problème, c'est qu'on ne veut pas admettre qu'on a cet outil en nous. On a un outil énorme qu'on a en nous et que chaque personne a deux séries en lui, comme on va expliquer tout de suite. Personne ne peut dire « j'ai pas cet outil ». Personne ne peut dire « je suis pas né dans la bonne famille, j'ai pas eu la bonne éducation, j'ai pas ». Ça n'existe pas. Celui qui est juif, il a ça. D'emblée, il a ça. Même s'il est converti, ce que tu veux, celui qui est juif, dès que tu es juif, tu as cette puissance qu'on va expliquer tout de suite. Pourquoi? On va expliquer. Donc dans les mots. Donc Tosef et Biur Baeretev, je reprends le chapitre. Pour expliquer Baeretev, hein, qu'est-ce qui se passe?
C'est qu'il ouvre le capot.
Il ouvre le capot, oui. Alors. Tosef et Biur Baeretev, pour expliquer de manière mieux expliquée. Milat Meod, le mot Meod. Meod, beaucoup, ça veut dire c'est très accessible. Je ne sais pas souki karav elecha davar Meod. Pourquoi Moshe Rabbeinu dit que c'est très facile? A priori, c'est faux. Quand tu dis que c'est très accessible, ça veut dire qu'il n'y a pas d'empêchement. Or, on sait très bien que c'est très difficile. Tsarich leidane emana. Il faut savoir de manière fidèle. Ça veut dire, il faut en être convaincu de ça. Ki af mishedato ktsarabe idiat Hashem. De quoi on va se plaindre finalement? Personne va dire, mais attends. Ça, ce que tu me racontes ici, c'est pour une personne qui a une grande connaissance du divin. C'est-à-dire que son cerveau, il arrive à comprendre tout ça. Et qui a un cœur aussi qui est ouvert vers Dieu. Mais si j'ai ni l'un ni l'autre, ni j'ai un cerveau qui est spécialement évolué pour ces choses-là, pour penser au spirituel, aux choses philosophiques, ni j'ai un cœur qui est bon, ni j'aime et je crains Dieu. J'ai envie de dire, j'ai rien. Tu dis non. Même celui qui te dit que dato ktsara beyediat Hashem, que son cerveau n'est pas assez évolué, il n'arrive pas à réfléchir, à méditer à la grandeur. Il n'arrive pas, c'est trop pour lui. Mais elle enlève la vie de en Baruch. Il te dit, j'ai pas de cœur aussi pour penser à la grandeur de Dieu. Les holim menatrilu chimu. J'arrive pas à générer en moi de l'amour et de la crainte de Dieu. J'arrive pas. Des mots, afil b'morot v'natolevad. Même m'imaginer, j'arrive pas. Ben il te dit, même une personne comme ça, qui peut être nous tous, c'est-à-dire que chacun de nous peut dire, ni j'arrive dans ma tête, ni j'arrive dans mon cœur. Ni ça m'intéresse dans ma tête, et ni dans mon cœur, je sens que ça décolle. Alors qu'est-ce que tu me racontes que c'est accessible? C'est pas accessible. Je réponds là de Mourazaken. Il te dit. Même une personne comme ça, ce qui peut être chacun de nous, à Falpiken quand même, Karov Elav Adavar Meod, d'accord? Quand même, Karov Elav Adavar Meod.
J'ai reçu ton message, je suis au cours. L'appel de New York pour que je vienne le chercher.
Alors pas de problème.
À New York.
Donc il dit, à Falpiken quand même, Karov Elav Adavar Meod, même un juif comme ça, qui dit qu'il ne sent rien, il comprend rien, et que ça lui parle pas dans sa tête, ça lui parle pas dans son cœur. Même lui, Moshe Rabbeinu lui dit, sache que c'est très accessible. Pourquoi? C'est très accessible. Lishmor, vela asot et kol mitzvot à Torah. C'est accessible de garder les mitzvot, c'est-à-dire de ne pas commettre les mitzvot négatives, et de faire toutes les mitzvot positives. Ve talmud Torah ki neged kulam. Et l'étude de la Torah qui équivaut à tous. Befiv, d'accord, dans sa bouche. Ou bil vavo, et dans son cœur. C'est très puissant ce qu'il dit ici. Il n'a pas donné l'outil encore. Il dit, d'abord, il te dit d'emblée, voilà où je veux t'amener. Sache que même si tu te dis que moi je ressens rien, je veux rien, il n'y a rien qui me parle, ni dans mon cœur, ni dans ma tête, j'ai rien, j'ai un coup de bouche, j'ai rien, rien m'intéresse. Et tu dis, sache que tu as un outil en toi qui peut te permettre de vivre la Torah et d'être mamage dedans, behemet la amito. C'est quoi behemet la amito? Ça veut dire la vraie vérité. C'est quoi la vraie vérité? Il y a une fausse vérité, Jackie? C'est quoi la vraie vérité? Quand il dit émettre la mytho, le Marocain dit souvent ça. Émettre la mytho. Ça veut dire quoi? Il y a une fausse vérité? C'est vrai de vrai, oui, comme il dit vrai de vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois il y a des choses,
excusez-moi,
on sait que c'est vrai, Mais concrètement, on sent pas qu'on le sent nous. Il te dit non, on va te donner maintenant un outil qui va te permettre à n'importe quelle personne au monde, n'importe quel juif, parce qu'il a un outil, cet outil-là en lui, de pouvoir être capable de servir à Kadosh Barou avec tout son cœur et de manière émettre la mytho de la vraie vérité. Comment c'est possible? Il dit comme ça, il dit c'est très simple. En vérité, on a un outil en nous qu'on n'utilise pas. C'est quoi cet outil? Bitrilou ou Chimou. Chacun de nous, au fond de lui, on a une crainte et un amour envers Dieu. Shehi, Ahava, Mesuteret, Belef, Klalout Israël, Shehi, Yerushalayim, Mavotenu. Pour ça, il faut que je m'arrête dessus parce que ça, il faut qu'on explique bien ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. Il y a ce qu'on appelle, alors je vais traduire littéralement d'abord, retenez bien ce terme parce qu'on le revoit très souvent, Ahava, Mesuteret, l'amour caché. On a en nous un amour caché. Un amour caché qu'on a hérité de nos parents. Ça veut dire comme ça. Avraham Avinu, il n'aimait pas Dieu quand il est né. Il ne savait pas ce que c'était Dieu. Il ne savait pas ce que c'était Dieu. Il a cherché, il a découvert, et ça a pris du temps. 3 ans, il a commencé à chercher. Après 20 ans, il a retrouvé un peu plus. 40 ans, il a découvert à 100%, mais ça a pris du temps. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas normalement. Non, je ne peux pas aimer ce que j'aime, ce que je ne connais pas. Par exemple, va prendre un bébé. Pose-lui la question, est-ce que tu aimes le café? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va aimer la couleur peut-être du café. Il ne peut pas aimer le café s'il ne le connaît pas. Je ne peux pas aimer quelque chose que je ne connais pas. Comment tu peux aimer Dieu si tu ne le connais pas? On a un problème. C'est pour ça que Béhémeth, Avraham Avinu, n'aimait pas Dieu. Pas parce qu'il n'aime pas, parce qu'il ne le connaît pas. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché. Il a cherché à comprendre Dieu. Et quand il a compris la grandeur et la complexité, comment c'était tellement grand à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, il était en admiration. Et cette admiration a créé l'amour. Vous savez, quand on est admiratif devant quelqu'un, on commence à l'aimer. Donc Avraham Avinu, c'est passé progressivement. Il a d'abord découvert qui était Kadosh Baruch Hu, ensuite il a commencé à admirer Kadosh Baruch Hu, et après il a commencé à l'aimer. Bon, ça aurait pu s'arrêter là. On aurait pu dire, dans ce cas-là, ses enfants, eux aussi, devront repasser par le même parcours qu'il a fait. Ça veut dire, repasser par le même parcours, recherche, d'accord, découverte, admiration, amour. Mais Dieu a donné un cadeau extraordinaire à Avraham Avinu. Il a dit, comme tu as été dans un endroit qui était, dans un environnement qui était hostile, dans lequel croire en Dieu, c'était pas populaire. C'était même contre-révolutionnaire de le faire. Et que tu as continué, et que t'as été prêt à donner ta vie. Dieu lui a dit, je vais te donner un cadeau. Je vais te donner un cadeau extraordinaire. Et c'est le meilleur cadeau au monde. Mais ce cadeau, il est pas pour toi. Ce cadeau, il est pour tes enfants. Je vais te donner un cadeau que tes enfants, tes arrière-petits-enfants, jusqu'à la fin des temps, ils auront le même amour que toi tu as, ils l'auront en eux de série. Sans qu'ils aient besoin de faire un travail. Toi, tu as besoin de faire un travail pour ça. Mais c'est pas dit que tes enfants auraient fait le même travail. Ce travail de recherche, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. C'est pas dit que les enfants l'auraient fait. Ça veut dire qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu lui a donné une bracha énorme, que lui, Avraham, il a rien eu de ça, parce que lui, il aime déjà Dieu. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien du tout de ça, lui. Mais il lui a dit, je vais te donner une bracha extraordinaire, c'est de t'assurer que ce que toi tu as découvert maintenant, tous tes descendants jusqu'à la fin du temps, ils l'auront en eux. Mais, s'ils l'ont en eux dans la même puissance que toi tu l'as, dans ce cas-là, ils n'auront plus de libre arbitre. Imaginez que d'emblée, un enfant est né, et directement, il aime Dieu, comme Avraham est venu, il a aimé Dieu. Dans ce cas-là, c'est évident que personne ne voudra faire des avérotes. Donc il n'y a plus de libre arbitre. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Dieu, il a dit, on va leur mettre cet amour, mais on va le mettre caché. Il va être caché en eux, il va être enfoui. Mais ce qu'on va gagner avec cette vie, alors à quoi ça sert s'il est caché? S'il est caché, de toutes les façons, à quoi ça sert? C'est comme si une personne, il dit, j'ai 10 millions d'euros dans un compte en banque, mais ils ne sont pas accessibles. Bah, à quoi ça sert? Autant me dire, je ne les ai pas. À la limite, c'est encore plus frustrant quand tu me dis que je les ai et que je ne peux pas les accéder. On est d'accord? C'est frustrant. Il te dit non. C'est pas que tu peux pas les accéder, c'est qu'il est caché. Il est caché, mais quand tu fais un effort pour le découvrir, pour le dévoiler, et ben là, il ressort. Et c'est ce qui se passe, on va parler par exemple aujourd'hui du jeûne de Kippour, ou bien chacun de nous quand on a des moments d'éveil. Des fois, il y a des moments dans l'année, dans la vie, dans lesquels on sent que tout d'un coup, on se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te réveilles tout d'un coup? Et que c'est pas proportionnel par rapport à ce qu'on a, par rapport au travail qu'on a fait avant. Ça, c'était pas que t'as fait un travail de préparation qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'après ça a décollé. Des fois, t'en as pris tout d'un coup, ça décolle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a décollé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que de temps en temps, cet amour caché se réveille. Il envoie des signaux comme ça. Et quand il envoie un signal, c'est une bombe. Mais il est là. Alors il te dit comme ça. Il te dit, quand on va voir un juif maintenant qui est très loin de la Torah, et quand on dit très loin de la Torah, c'est pas forcément quelqu'un qui est pas pratiquant. On peut être pratiquant, mais à côté de la plaque. On peut être pratiquant, ça veut dire faire toutes les mitzvot, mais faire de manière routinière, comme il a dit ici. C'est-à-dire tu le fais, mais ni tu sens que ça t'intéresse, ni tu sens que ça te parle dans ton cœur. Ça te parle pas, ça t'intéresse pas. Il te dit, sache que quand on va venir te voir, on va te dire il faut que tu aimes et tu crains Dieu. Ça fait peur. Tu dis, mais attends, mais comment tu veux, je vais l'aimer, je vais le craindre. Mais c'est pas possible, c'est fini, c'est, laisse tomber. T'as vu l'âge que j'ai, t'as vu le travail, laisse tomber, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais. On va lui répondre à ce juif, on va lui donner des techniques. On va lui dire, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. On te demande pas maintenant de réinventer la roue et de régénérer l'amour comme Abraham l'a fait en son temps. C'est-à-dire de tout redémarrer à zéro. Non, t'as pas besoin de tout redémarrer à zéro. On te demande simplement de décrasser pour utiliser un outil que tu as en toi, mais qui malheureusement était au garage depuis longtemps. Donc on va tu vas en fait essayer, on va te donner des techniques pour essayer d'ouvrir, d'aller au garage pour aller chercher cet outil pour l'utiliser. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à l'utiliser, le résultat de tes efforts sera disproportionné par rapport aux efforts que tu vas fournir. Ça, on le voit très souvent, c'est les gens qui font teshuvah. Quand ils commencent à faire teshuvah, ils ont l'impression que c'est un monde. Et quand ils voient, ils commencent à avancer, ça décolle. Pourquoi ça a décollé? C'est disproportionné. Parce qu'en vérité, il avait déjà ça en lui. Seulement, il ne le savait pas. Vous vous rappelez, on avait donné un exemple, ça fait deux semaines. On avait dit, c'est comme si par exemple quelqu'un qui est doué pour la musique, vous vous rappelez, on avait donné un exemple, quelqu'un qui est doué pour la musique mais qui ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est doué pour la musique parce qu'il n'est jamais né dans un environnement musical. Et un jour, on lui donne un instrument de musique, on dit, vas-y, commence à jouer. Alors bon, il ne sait pas. Il va commencer, et tout d'un coup, mais comme il est doué pour ça, donc ça va décoller. Il avait toujours ça en lui. C'est pas qu'il a découvert maintenant. Il avait toujours ça en lui, mais à un moment, ça sort. Et ben, c'est la même chose. Chacun de nous, au fond de lui, on a ce qu'on appelle une ahava mesuteret. Un amour caché envers Akadosh Baruch Hu. On parlera plus tard aussi de la ira mesuteret, de la crainte cachée, mais d'abord on va parler de l'amour. L'amour, on va parler de l'amour caché que chacun de nous envers Akadosh Baruch Hu. Donc ça, on va essayer de le développer plus longuement, d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais c'est déjà très important de comprendre ça. Ça veut dire que, en d'autres termes, le message de ce chapitre, c'est que aucun juif peut dire c'est pas pour moi. Ça n'existe pas. Aucun juif peut dire c'est trop tard. J'y arriverai jamais. C'est pas possible. C'est pas possible de dire ça. Parce que chaque juif, il a en lui ce moteur qui est au fond de lui et qui ne peut jamais disparaître. Ce moteur ne peut jamais disparaître, ça n'existe pas. Le moteur qu'on va parler ici, ça veut dire le moteur de l'amour, ahava, mais souterrain, l'amour caché, est un moteur qui disparaît jamais. Même chez un juif qui ne fait pas kippour, qui n'a jamais rien fait, qui a fait les 400 coups, il a toujours ce moteur au fond de lui. Il peut toujours revenir. C'est peut-être difficile, mais il peut toujours revenir. Il a ce moteur-là au fond de lui. Parce que ça, shehi yerusha lanou mavotenu, c'est un héritage. Alors, puisqu'on parle d'héritage, je voudrais m'arrêter un petit peu sur la notion d'héritage. C'est quoi la définition d'un héritage?
Qu'on reçoit sans labeur.
D'accord, alors c'est quoi un héritage? Tu as un enfant,
on a aucun d'accord effort pour l'avoir.
Il a fait aucun effort, non. Rien du tout. Ça veut dire que l'héritage, l'enfant a fait aucun effort. Ça lui revient de droit, mais il n'a rien fait. On lui dit, tu continues où ton père s'est arrêté. Vous savez où c'est écrit ça? David Améler dans Tehilim, il dit, Tachat avotecha yubanecha. Il dit, à la place des parents viendront les enfants. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire qu'en vérité, que même dans la lachot, il y a beaucoup de lachot qui dépendent de cette notion-là. C'est pas qu'on considère que le père, il a donné un cadeau, quelque chose à ses enfants. Parce que s'il a donné un cadeau, par exemple, il y a la notion de créancier. Quand par exemple, je dois de l'argent à des gens, d'accord? Et que j'ai des objets qui sont chez moi, mais j'ai pas de liquidité. Et que je prends un terrain, je prends quelque chose qui m'appartient, et je vais décider de le donner en cadeau. Dans ce cas-là, on dit, attends, avant de le donner en cadeau, il y a des gens qui sont prioritaires. Il y a des gens qui sont préemptaires, c'est qui? C'est ceux par les créanciers, par exemple. Parce que quand tu donnes un cadeau, il y a un transfert de propriété entre moi et la personne. Ça, c'est un cadeau. Mais quand c'est un héritage, il n'y a pas de transfert de propriété. Quand c'est un héritage, on considère que l'enfant est la continuité du parent. C'est la suite. Donc imaginez, les mots ici sont très précis. C'est pas un cadeau qu'Abraham nous a donné. C'est un héritage, parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham, de ceux qui ont été les enfants jusqu'à Abraham. On est les enfants d'Abraham. Et même un converti, quand il monte à la Torah, on l'appelle comment? Ben, Abraham. On est les enfants d'Abraham. Or, un enfant hérite de son père. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit pour hériter, pour recevoir un cadeau, par exemple. Pour recevoir un cadeau, normalement, il faut être bar mitzvah. Il faut être majeur. Bar mitzvah, ce que j'appelle bar mitzvah. Ça veut dire comme ça. Si je prends un objet et je le donne en cadeau à un enfant qui a 5 ans, eh ben, c'est pas considéré un cadeau. Parce que, je veux dire légalement. Légalement, c'est pas considéré un cadeau parce qu'on dit sa main n'est pas considérée un domaine qu'il peut recevoir. Parce qu'il n'est pas majeur. Mais par contre, pour hériter, est-ce qu'il y a besoin d'être bar mitzvah pour hériter? La Gemara dit à Filou Tinok Ben Yomo. Même un enfant, un bébé qui vient de naître, il hérite. Parce que hériter, c'est pas lié à ma capacité de recevoir un cadeau. Ça n'a rien à voir. Quand une personne hérite, ça veut dire qu'il continue, c'est la prolongation de ce qu'il y avait avant. Presque on a envie de dire, ton père il est arrivé ici, tu continues depuis ici.
Une succession,
mais ça veut dire que c'est énorme le message qui est ici. C'est qu'on est en train de te dire, ne crois pas que tu dois recommencer le même parcours que ton père a fait. les enfants continuent ou les parents se sont arrêtés. Et il y a plein d'exemples qu'on peut donner sur ça. Prenez par exemple quelqu'un, pour lui c'est très très dur de faire Shabbat. Il a fait Teshuvah, c'était très très dur de faire Shabbat. Pour ses enfants, c'est un acquis. Il continue ici. Maintenant, leur effort à ses enfants va être de dormir un peu moins Shabbat et d'étudier un peu plus la Torah. Etc, etc, etc. Et de génération en génération, on espère que c'est comme ça, plus on avance et plus on transmet en héritage. Un héritage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fils va venir à la place du père. Donc c'est une succession, c'est-à-dire que le fils continue au stade où le père s'est arrêté. Ben, c'est exactement la même chose. Avraham Avinu, il s'est battu. Il s'est battu pour arriver à comprendre et ressentir Dieu. On continue où Avraham s'est arrêté. Et ça ne s'arrêtera jamais, ça. Et c'est Dieu qui a décidé que ça restera toujours chez un juif, peu importe où il est, d'accord, peu importe, même si ça fait déjà 10 générations qu'il est assimilé, personne ne pourra lui enlever l'amour caché qu'il a en lui. Ça n'existe pas, personne ne pourra lui enlever. Heureusement que c'est comme ça, parce que sinon,
chlet. C'est parce qu'Abraham Yitzhak Yaakov.
C'est parce que
ça passe que la lignée
Abraham Yitzhak Yaakov. Ça a commencé par Abraham. Abraham, il a donné ça à Yitzhak Yaakov, etc. Et nous, on hérite.
Non, comme tu dis Abraham, on peut penser que c'est le plus
large. Oui, on aurait pu penser. Avraham, ça a été dirigé vers nous. Mais ça, c'est quelque chose, heureusement que c'est comme ça. Combien de fois on connaît des histoires comme ça, des gens que ça fait déjà 3, 4, 5 générations qu'ils étaient éloignés de la Torah, et tout d'un coup, il y en a un qui essaie de revenir, et il revient, il fait une joie extraordinaire. Parce qu'on a ça en nous. Et c'est pas quelque chose qu'on doit créer. On fait que dévoiler, découvrir. Un juif, on peut pas l'effacer. Vous savez,
il y a un converti.
Ou le contraire.
Quoi?
Ou le contraire.
C'est quoi le contraire?
Quelqu'un qui n'est plus pratiquant, et tu dis mon grand-père était rabbin.
Oui, mais il a ça en lui quand même.
Ouais.
Tu peux pas lui enlever. Maintenant, c'est caché, ça peut être caché. Ça veut dire que peut-être que même lui ne le sait pas. Mais il a ça en lui. Alors, il y avait une question, oui.
Par un converti, je disais moi.
La même chose. Dès le moment où il est converti, on lui donne une neshama. On lui greffe une neshama de converti, ça veut dire que dorénavant, il a dans sa neshama la force qu'Avraham Avinu. Il démarre où a démarré Avraham Avinu. C'est-à-dire que Dieu nous donne une capacité que chaque juif, il démarre au minimum au niveau où Avraham Avinu s'est arrêté. Mais il a ça en lui, de manière, mais souterraine, de manière cachée. C'est extraordinaire quand on entend ça.
Il faut qu'il le développe.
Il faut le développer. Une fois, il y avait un chassid qui était parti pour ramasser de l'argent dans une ville. Je voulais raconter cette histoire, je crois, au cours du jeudi matin, je crois que j'avais raconté. Il y a un chassid qui était venu pour ramasser de l'argent à Chicago. C'était un chassid du rabbi précédent. Chicago de l'époque, c'était Chicago en 1950, tu vois. Bon, c'était un peu là. Voilà, exactement. Voilà, en plein, exactement. Et il est parti. Bon, il y avait beaucoup de juifs et il y avait des sous. Donc, il y a New York qui n'avait pas beaucoup de sous, donc ils sont partis. Il est parti à Chicago. Il est parti à Chicago. Et il est parti à Chicago et là-bas, il a raconté qu'il a rencontré quelqu'un que son père était d'une famille de chassidim, mais que lui, malheureusement, depuis, bon, il a dévié, il a quitté. Alors, il a essayé de lui parler, etc. Bon, il a fait comprendre qu'il venait aussi pour le chèque, mais il venait aussi pour l'encourager, revenir à la Torah, etc. Bon. Et à la fin, dans la discussion, il s'est retrouvé à lui dire la phrase suivante. Il lui dit qu'en vérité, le Ham Israël, c'est comme un Sefer Torah. Et dans un Sefer Torah, enfin, il n'y a pas 600 000 lettres, mais en tout cas, on dit qu'il y a, normalement, il y a chaque juif qui a sa lettre, d'accord? Et que dans un Sefer Torah, s'il y a une lettre qui manque, même si c'est la lettre qui est dans le mot, le Lamed de Amalek, le Sefer Torah n'est pas caché, parce que le Sefer Torah doit être complet. Et donc, il s'est expliqué à ce juif-là, il lui disait que même si la lettre d'un juif s'est effacée, eh ben, le Sefer Torah, il est caché, il est pas sous la cause de ça, et donc, du coup, il faut réécrire la lettre. Donc, en fait, il est en train d'encourager ce juif-là, en lui disant, le Ham Israël a besoin que tu fasses tes chouvas parce que sans toi, le Ham Israël n'est pas entier. Bon, c'est un beau discours. Il a fait ce discours, l'autre entre-temps, il a fait un beau chèque et il a commencé à faire tes chouvas, etc. Bon, bah, au prochain, tout est bien. Il arrive à New York, il voit le rabbi précédent qui était déjà assez fatigué et il fait un rapport. L'habitude était comme ça à l'époque, comme il était fatigué à l'année précédente, il faisait un rapport, un compte rendu par écrit. On faisait un compte rendu par écrit, on l'envoyait et après quelques heures, quelques jours plus tard, on venait le voir et s'il avait des remarques à faire, il te disait bon, là j'ai vu ça, là j'ai vu ça. Donc il lui a fait un rapport détaillé tout ce qui s'est passé. Il lui a raconté notamment cette histoire. Il dit j'étais voir un tel et un tel et je lui ai dit ça et ça et ça. Et là, quelques jours plus tard, le rabbi précédent le convoque et il lui dit tu sais j'ai vu ton rapport, il y a un problème. Dans ton rapport, tu as écrit que la lettre d'un juif peut être effacée. La lettre d'un juif ne peut jamais être effacée. Ça n'existe pas. Ce qui peut arriver, c'est que la lettre d'un juif, elle peut s'encrasser. Il a donné l'exemple là-bas. Il a dit qu'en vérité, la lettre, les juifs, c'est pas comme de l'encre qui est écrite sur un parchemin, que l'encre, tu peux la gratter. C'est comme de la gravure. qu'une lettre qui est gravée, tu peux jamais l'enlever. Au maximum, ce qui peut arriver, c'est que tu vas le couvrir de crasse. Comme tu vas le couvrir de crasse, alors automatiquement, on n'arrive plus à l'accéder. Donc, il a dit, c'est la même chose. Un juif, tu peux pas effacer sa lettre. Même s'il va tomber, il pourra jamais effacer sa judéité qui est en lui. C'est impossible. Ce qu'il peut faire, il peut encrasser. Ah, c'est vrai, il peut encrasser à tel point que quand tu regardes le support, tu vois plus les lettres. Mais si tu vas gratter, tu vas trouver. Et un juif, c'est un trésor. Un juif, c'est un diamant, tu vas gratter, tu vas trouver. C'est ce qu'il te dit ici. Chaque juif, au fond de lui, il a une ahava, mais sous terrette. Un amour caché. C'est? Non, gratter dans le sens pour voir ce qui est, pour faire briller.
Frotter,
exactement. Oui.
Et pour les filles et pour les l'autre lignée.
Ça veut dire
femme,
ils sont hors concours.
Non, ils ont déjà gagné.
Non, pas du tout. C'est pour nous. C'est hérité que pour nous. Dieu, il a donné cette bracha pour ta descendance. Et ta descendance, c'est Yitzhak. Mais il y avait Esav aussi. Esav, c'est un juif. Après, il s'est mal marié, mais Esav, c'est un juif. La Gemara dit clairement, Esav, c'est Israël Moumar. C'est un juif renégat.
Et Ishmaël, c'est pas un juif?
Non.
Non.
C'est le fils de la servante. Il faut dire juste clairement. Il est ce qu'il est, c'est très bien, mais c'est fils de
la servante. Esav, c'est marié. Avec...
C'est pas ta descendance.
Elle s'est convertie, la servante, quand même.
Hein?
Elle s'est convertie.
Mais c'est pas ta descendance. C'était une servante.
Mais c'est quand même
ouverte. Oui, mais on n'a rien contre, c'est très bien. On dit que ce qu'elle faisait, Ketora,
c'est sa descendance.
C'était une grande dame, mais ça change pas. C'est une grande dame, sa maman, mais c'est contrairement, c'est la servante et c'est pas sa descendance. C'est pas, quand on dit à quelqu'un c'est sa descendance, ça veut dire que c'est de sa femme principale et que c'est l'enfant de sa femme. C'est ça le chat.
Oui, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il s'est adressé à Abraham, il lui a dit. Ta descendance à toi, Abraham. Donc, Ishmaël, il fait partie de sa descendance
pas dit,
à lui.
Il faut comprendre qu'en hébreu, je ne sais pas, enfin, en hébreu, il faut faire la différence entre la progéniture et la descendance. Progéniture, effectivement, Ishmaël est la progéniture d'Abraham. Mais descendance, c'est comme on expliquait la notion d'héritage.
C'est la lignée. Voilà, c'est ça.
Ouais. Vous comprenez? C'est la lignée. C'est comme si t'as un palais, et le roi, il est parti avec une servante là-bas, il a eu un enfant. Et il dit, ah, il vient du roi. C'est un serviteur. C'est un valet.
Les enfants qu'il avait avec les autres, c'était
non,
des bâtards.
J'ai pas dit ça.
Les rois, c'était comme
oui, d'accord, mais là, c'est pas un bâtard. C'était...
Non, mais chez les rois, ça fonctionnait comme ça.
Où est-ce qu'elle est notée, cette Yerusha?
Il y avait la reine et les autres.
De quoi?
La Yerusha, où est-ce qu'elle est notée dans la Torah?
La Gemara, elle explique, je vais sortir la Gemara, elle dit que le Ko Yezar Echa, c'est sur la Emouna. Que la Emouna, on aura ça en nous. Comme c'est écrit, Israël, on est Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Croyant, fils de croyant. Pourquoi on a besoin de préciser qu'on est croyant, fils de croyant? Ou je suis croyant, ou je suis pas croyant, qu'est-ce qu'on en a à faire ce qui a été mon père? Parce qu'on te dit, pourquoi je suis croyant? Parce que je suis fils de croyant. Et que, pourquoi mon père est croyant? Parce qu'il est aussi fils de croyant. Tout ça, on remonte jusqu'à Abraham Avinu. Mais il faut comprendre que ça, c'est un cadeau extraordinaire, que on a pris du temps à le comprendre. Par exemple, quand Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, va annoncer au peuple qu'ils vont sortir. Moshe Rabbeinu a dit, ils vont pas me croire. Eh bien, maître, logiquement, on n'allait pas le croire. Ça fait tellement de temps qu'on souffre. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, tu sais pas à qui tu parles. Tu parles à des juifs. Et les juifs, ils sont ma'aminim, bnei ma'aminim. C'est des croyants, fils de croyants. Et même si maintenant, quand tu les vois, t'as l'impression qu'ils croient en rien, mais tu vas voir, prends-les du bon angle et parle-leur, et tu vas voir que tout d'un coup, ça va ressortir, et c'est comme si qu'ils ont jamais été pas religieux. C'est ce qui s'est passé. Il y avait des gens qui parlaient, qui cassaient du truc, qui disaient, ouais, Dieu nous a oubliés, etc., les trucs et tout. Et dès qu'on leur sort le message, tout d'un coup, tu les prends du bon angle, et ça ressort. Et tu sais pas d'où il sort, t'as l'impression qu'il a toujours été religieux. Ma'aminim, bnei ma'aminim. Comme dit la chanson, nahnu ma'aminim, d'accord? Parce qu'on est croyants, fils de croyants. Du fait que nos parents étaient croyants, nous aussi on est croyants. Mais ça, il faut savoir que c'est un cadeau que Dieu nous a donné. C'est un héritage, mais c'est une chance que Dieu nous a donné ça. Parce que normalement, c'est pas comme ça. Il y a aucune raison que les enfants aient la même croyance que les parents. Il y a aucune raison. Si les parents sont communistes, les enfants sont communistes, il y a aucun rapport. Quel rapport? Pas de rapport. C'est un peu le même parcours. Pourquoi? Là, c'est vraiment une chance que Dieu a donné à Abraham, qui lui a dit, je te donne une bracha, que tes enfants seront aussi comme ça. Et leurs enfants seront aussi comme ça. C'est un cadeau qu'on a, il faut apprendre à apprécier ça.
Pourquoi cette Yerusha, donc, de Abraham et Souterrette n'est pas soumise à condition, alors que la terre d'Israël est soumise à condition?
Parce que ça, c'est l'essence même du juif.
La terre d'Israël, non?
Non. On peut être juif sans Israël.
Sans nation?
Quoi?
Un peuple sans nation n'est pas un peuple.
On peut être juif sans Israël. Non, Israël.
Sans nation depuis pendant 2000 ans.
Non, mais c'est quand même la terre d'Israël, c'est ce qui était donné à Abraham, et il lui a dit, ta descendance l'héritera également.
Oui.
À condition qu'il se comporte
bien. Mais c'est notre terre sans condition aussi. Elle est à nous, cette terre. On n'y est pas maintenant, mais...
Donc ça reste à nous.
Ça reste à nous. C'est à nous, il n'y a pas à discuter. Mais la différence qu'il y a avec la Neshama, c'est que la Neshama, elle est en nous constamment. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller en exil, ou elle dit elle n'est pas là, ou elle a raté une génération. Ça n'existe pas. Et cette Neshama qui est en nous, ce n'est pas seulement cette Neshama, cet amour caché. Donc là, si vous voulez, on commence à définir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire quand on dit la Neshama. Toujours, tout le temps dans les cours, on parle la Neshama du juif, la Neshama du juif. C'est quoi la Neshama ? De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? C'est quoi la Neshama ? Là, on commence à comprendre que cette Neshama, c'est par exemple l'amour caché qui est en nous. Ça, tout le monde a. Donc c'est pour ça qu'il te dit, voilà pourquoi on commence à comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu a dit qui karov elecha adava me'od. Moshe Rabbeinu, il a dit pas juste c'est accessible, il a dit c'est très accessible. Ah, pourtant moi je crois que c'est compliqué quand je lis tout ça. Tu dis non. Toi tu vois parce que tu vois pas ce qui est caché. Mais moi je vois ce qui t'as dans le ventre. Et quand je vois ce qui t'as dans le ventre, je te dis que essaye, juste essaye, tu vas voir. Fais tourner le moteur, tu vas voir. Tu fais tourner le moteur, tu vas comprendre que t'as un outil en toi que tu te doutes même pas de la puissance de l'outil que tu as en toi. Rak, cependant, chez Tsarir, le Vaher ou l'Altim Trila sur Rachavazo. Mais il faut d'abord expliquer un petit peu quelle est l'origine de cet amour-là. Il faut qu'on explique un petit peu qu'est-ce que c'est cet amour. Ve Inyana. Ve Er Yerushalanu. Et comment? Donc il faut qu'on explique maintenant un peu plus profondément, plus philosophiquement. Quel est cet amour? D'où vient cet amour? Comment il nous est hérité? Et ve Er Nichlalba Gam Derilu. Et comment dans cet amour se trouve aussi une crainte d'Akadosh Baruch Hu? On va expliquer tout de suite tout ça. Ve Inyana. Le concept est le suivant. Il explique maintenant pourquoi c'est comme ça. Pourquoi Dieu a fait en sorte qu'on a hérité ce que nos parents avaient. Pourquoi Dieu aurait pu faire différemment? Dieu aurait pu dire comment? Tu es juif parce que tu es né de parents juifs, mais tu dois refaire le même parcours. Il faut faire un parcours de recherche de Dieu. Pourquoi Dieu a dit non? Que tu fasses ce parcours ou tu ne fasses pas ce parcours, tu as en toi cet outil. Pourquoi Dieu a fait comme ça? Alors il dit comme ça. Il dit, pour comprendre, d'accord? Pour comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on a cette capacité d'aimer? En vérité, il faut revenir à une autre question. Qu'est-ce que c'est l'aneshama? Parce que l'aneshama, c'est aussi un héritage. L'aneshama qu'on a en nous, c'est un héritage qu'on a de nos parents. Donc, si vous voulez, avant de comprendre l'impact que va avoir l'amour caché qu'il y a en moi, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est l'aneshama que j'ai en moi. Pourquoi j'ai une aneshama? Pourquoi Dieu m'a donné une aneshama? Pourquoi? À quoi ça sert? Est-ce qu'on n'aurait pas pu vivre sans neshama? Pourquoi un juif a besoin d'une neshama? À quoi ça sert une neshama? Tiens, je vais faire un tour de table. Pourquoi on a une neshama? À quoi ça sert?
Pour être attaché à Dieu.
Attendez, on fait le tour. On commence par le corps.
Commence par les autres.
Non, je commence par. Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Pourquoi j'ai une neshama? À quoi ça me sert?
Appelle un ami.
Pour me permettre de rester dans un droit chemin.
D'accord. Ok. Pourquoi? Pourquoi Dieu a besoin de me donner une neshama? Est-ce que j'aurais pu me débrouiller sans Neshama? Qu'est-ce que c'est pour toi la Neshama?
C'est dans la logique de la création de Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque chose, elle a une partie de Dieu pour exister.
D'accord, mais est-ce que tu aurais pu vivre sans la Neshama?
Si Dieu avait décidé que...
Comment ils font les goyim pour vivre sans la Neshama? Est-ce qu'on aurait pu être juif sans la Neshama? C'est ma question.
Ça veut dire que tu parles de la Neshama?
Là, oui, ce qu'on appelle la Neshama, oui. Est-ce qu'on aurait pu être juif sans ça?
C'est un attachement, en fait. Mais tout dépend. Si Dieu avait décidé que c'était positif...
Non, je pose la question en théorie.
En théorie, non.
Pourquoi?
Non, parce que c'est... Sans cette partie de Dieu qu'on a, on n'aurait pas cette identité de Dieu.
D'accord, l'identité, ok. David?
C'est quoi la question?
À quoi sert un neshama?
Comme il a dit, si Dieu nous l'a mis en vie, c'est qu'elle serait quelque chose.
J'ai compris, mais il faut poser la question à quoi elle sert.
Elle sert à nous relier à Dieu.
À nous relier à Dieu, identité reliée à Dieu, d'accord. À quoi sert l'aneshama?
Je sais pas.
Bon, ça c'est une réponse. Ok. À quoi sert l'aneshama? Relation à divine. À quoi sert l'aneshama?
Il y a des gens qui sont attachés à
Dieu.
Sans avoir
l'aneshama? Oui.
Est-ce qu'un goy peut être attaché à Dieu?
Bien sûr.
Ah, pourquoi ça, l'aneshama? Alors, il a parlé de moi, il y en a qui ont parlé d'identité, relation particulière. À quoi ça, l'aneshama?
L'aneshama, c'est la vie, c'est le sens.
Dov, Avner?
C'est une alliance, quoi.
Une alliance, relation, d'accord.
C'est l'énergie divine.
Énergie, oui, très bien.
C'est une lumière.
Moi, lumière.
J'ai une autre réponse.
Michael.
Moi j'ai eu la suite.
Hein?
J'ai une autre question. Comment tu rends
quoi
ah, bah, attends, on prend la salle là déjà.
À quoi sert le corps? Hein? Comme question. À quoi sert
le corps? Il sert à vivre. Sans le corps, je vis pas.
Mais la Neshama, elle vit sans le corps. Dans d'autres mondes, elle vit sans le corps. À quoi ça sert que le corps?
D'accord. Bon, là maintenant, en tout cas, on vit maintenant. Oh, je comprends à quoi mon corps il sert. Mon corps il sert maintenant à boire ce café, à manger, ça je comprends. Mais ma neshama, à quoi il sert?
Peut-être que ça sert à rien à l'homme, ça sert à Dieu.
Peut-être, hein, c'est possible.
Ner Hashem,
c'est une interface.
Interface,
oui.
C'est une partie de ça, Dieu, la neshama.
Il nous reconnaît grâce à ça.
Donc, qu'est-ce qu'on peut
faire? Il reconnaît son peuple.
Sans ça, il ne nous reconnaît pas.
Non,
c'est la lumière. C'est la lumière.
On a une signature, tu vois.
Signature.
Ok, j'entends. Elle va expliquer.
Parce que l'égoïste, Dieu, nous, on est.
Alors.
Allez.
Il va expliquer comme ça. Ah, bien sûr, il nous faut la réponse. Là, il va expliquer comme ça. Qu'en vérité, c'est pas seulement nos parents ne nous ont pas donné seulement la émouna qu'on a en nous. La émouna, ça veut dire cette notion d'amour caché. Mais nos parents nous ont donné carrément la neshama. C'est quoi la neshama? La neshama, on avait expliqué dans le chapitre 2 que la neshama est chelek eloka mima'al mamash. Notre âme divine est une partie intégrante de Dieu. Et alors, qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi j'ai besoin de ça maintenant? Alors il dit comme ça. Il dit, le Tania, il dit comme ça. Il dit, Avot en Amerkava. On sait très bien que les patriarches sont la Merkava. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, je vais traduire littéralement, après on va commenter. Littéralement, ça veut dire comme ça. Littéralement, on dit que les patriarches sont le char céleste, sont le char divin. Je vais donner un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Imaginez par exemple, voilà, ma main ici.
Tiens.
Ah, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a de... Hein? On a eu peur, on a eu peur. Alors.
Il n'a pas de verre, Élie.
Je prends un exemple, regardez.
Tu ne bois pas.
Non, j'ai pas envie.
Il voulait le donner, il voulait le donner. Tiens, bon, puisque tu l'as amené, je vais essayer.
C'est du zéro.
C'est de la part des.
Pas bon. Attends,
c'est du sucre. C'est
Raïl. Pardon, j'ai
interrompu. Non, pas du tout, t'inquiète pas. Alors, on va prendre un exemple. Imaginez par exemple, regardez ma main. Vous voyez ma main?
Voilà ma main.
Bon, ma main, elle est là. Maintenant, je vais bouger mes doigts. Je vais faire comme ça. Pourquoi mes doigts ont bougé? Si mes doigts ont bougé, ça veut dire que mon cerveau a envoyé un signal à mon corps, d'accord? Et il lui a dit, bouge les doigts. Est-ce que les doigts avaient une possibilité de refuser ce que le cerveau a dit?
Non.
Bien sûr que oui.
Normalement,
non. On espère que non.
Ça dépend de l'état du cerveau.
Ça dépend de l'état du cerveau, ça dépend de l'état du membre.
Ça dépend de l'état
de tout. Il faut deux choses. Il faut trois choses même, exactement. Il faut que le cerveau soit en bon état, que la connexion soit en bon état, et que le membre soit en bon état. Il y a des fois des membres qui refusent d'écouter certains ordres.
Oui, il est pareil.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas automatique que parce que je veux bouger ma main, que ma main va bouger. C'est pas automatique. Dans l'état, concrètement, dans la pratique, c'est automatique, mais en vérité, c'est pas automatique. Il y a un processus derrière. Et d'ailleurs, à quel moment on est conscient qu'il y a ce processus? Quand les choses ne vont pas comme elles devraient aller, c'est là qu'on va analyser pourquoi ça fonctionne pas. Parce que c'est pas automatique. Il y a un laps de temps, d'accord? Il y a une fraction de seconde, le temps que le cerveau envoie l'information, envoie l'ordre, et que là, à ce moment-là, la main, le membre, il a, chaque membre, il a une sorte de volonté propre. Il va dire, bon, j'écoute le cerveau, je bouge. Des fois, il peut dire, non, je bouge pas. Par exemple, je suis fatigué. Par exemple, j'ai pas la force. Par exemple, j'ai pas envie d'écouter. Bon, il y a des fois un membre, il peut refuser. Mais prenez par exemple, maintenant, vous prenez une voiture. Prenez une voiture. Et dans la voiture, vous avez un volant. Vous avez le volant dans vos mains. Et quand tu tournes le volant à droite, la voiture, elle tourne à droite. Quand tu tournes à gauche, elle tourne à gauche. Est-ce que quand je tourne le volant, il peut décider, il peut dire, attends, il a tourné à droite, mais je vais réfléchir, est-ce que moi je tourne à droite ou je tourne pas à droite? Il y a pas, ça n'existe pas, il réfléchit pas. D'accord? C'est impossible. Ça n'existe pas.
Il a tourné à droite et pas.
Oui, d'accord, j'ai compris, mais ça c'est les voitures informatiques. Mais je te parle, quand c'est mécanique, tu tournes à droite. Et quand tu tournes à droite, ça tourne à droite. C'est pas, il t'a envoyé un signal, il a dit je vais tourner, je vais pas tourner. Il y a pas, ça marche pas comme ça. Il y a même pas de laps de temps dans lequel il se pose la question, ce que je fais ou je fais pas. C'est évident que ce sera fait parce que c'est automatique. C'est une continuité. Alors, le Zohar, il dit comme ça. Il dit, la différence qu'il y a entre nous et les patriarches, c'est que les patriarches, eux, tellement ils étaient annulés à Dieu, que il n'y avait pas eux et Dieu. Du style, Dieu a demandé de faire quelque chose, Dieu a envoyé un signal, il a dit fais ça, je réfléchis, je fais pas, bon, je fais. Non. Tellement ils étaient annulés à Kadosh Baruch Hu, que c'est comme un char. Ça veut dire que tu tournes à droite, il va à droite. C'est-à-dire, Dieu lui dit à Abraham, va faire ça. C'est même pas, il se pose la question, est-ce que je vais le faire, je vais pas le faire. Il est déjà en train de le faire. C'est automatique. C'est comme le char. T'as tourné le volant, ça tourne déjà à droite. C'est pas possible. Ça va tourner à droite. Alors, ce qu'il dit comme ça, ce qu'il va expliquer ici, maintenant, c'est comme ça. C'est qu'en vérité, la qualité principale qu'avaient les patriarches, c'est qu'ils étaient entièrement annulés à Kadosh Baruch Hu. Maintenant. C'est ça la puissance qu'il va expliquer ici. Il dit que la neshama qu'on a en nous, elle est aussi comme ça. Bon, la différence qu'il y a entre nous et les patriarches, c'est que les patriarches, non seulement que leur neshama était comme ça, qu'elle était annulée entièrement à Dieu comme un char, ça veut dire qu'il est annulé complètement aux actions du conducteur, mais même leur corps réagissait comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, notre corps, il réagit pas comme ça. Notre corps, il a une volonté propre. Mais notre neshama, elle est comme ça. On a une neshama que pour elle, quand tu lui demandes, c'est quoi ta volonté? Elle dit, moi, j'ai pas de volonté. Moi, ce que Dieu veut, c'est ce que je veux. Elle a pas de volonté propre. Ça, on a en nous. Donc ça veut dire, il te dit, c'est encore beaucoup plus fort que ce qu'on a expliqué avant. Tu viens voir un juif qui est pas religieux, qui est à côté de la plaque. Il a rien, le bonhomme, il fait rien. Il dit, mais c'est pas possible, je suis à côté de la plaque. Ni j'ai envie, ni je sens, j'ai rien du tout. On lui dit deux choses. D'abord, on lui dit, sache qu'en toi, tu as un amour caché vers Dieu. Qui en vérité, tu aimes. Il va dire, bon, d'accord, tu me le dis, je te crois. Je lui dis, mais plus que ça, c'est même pas ça. Tu sais, je te dis, en vérité, au fond de toi, tellement tu veux le faire que t'as même pas le choix que tu devrais le faire. Comme ce char-là. Seulement quoi? Ton problème, c'est quoi? C'est que ton corps n'exprime pas encore la volonté de ton âme. Les patriarches, eux, leur corps exprimait la volonté de leur âme. Toi, tu n'es pas à ce niveau-là. Donc en vérité, on dit, c'est très simple. On va même pas te demander de faire un effort pour tout recommencer, etc. Rien du tout. Il suffit d'essayer de te connecter à ton âme. Et quand tu vas faire un effort pour te connecter à ton âme, automatiquement, ton âme, elle veut déjà faire le bien, tellement elle veut faire le bien, qu'elle se pose même pas la question est-ce qu'elle le fait ou ne le fait pas. Ton seul travail, c'est quoi? C'est de connecter à ta neshama, d'essayer de la faire parler. Et quand tu vas la faire parler, tu vas voir automatiquement, laisse-la parler elle-même, elle veut déjà le faire. C'est même pas qu'elle veut le faire, elle a même pas de volonté propre. Ça, c'est l'héritage principal qu'on a reçu des patriarches. Pas seulement l'amour caché. Cette volonté de faire, sans même avoir une option de faire le contraire. Et ça, c'est le juif. On est programmé, oui, 100%. Sauf que, pourquoi on n'est pas programmé à 100%? Parce que notre corps n'est pas programmé. Donc c'est pour ça, quand un juif dit, j'arrive pas, on lui dit, mets de côté un peu ton corps, laisse parler ton âme. Arrête un peu les plaisirs, les kiffs, laisse parler ton âme. Occupe-toi de ton âme un peu. Et quand tu laisses parler ton âme, tout seul ça décolle. Parce que l'âme, elle est déjà prête. L'âme, c'est comme le volant, elle est déjà en train de tourner. Okay. Seulement tu la bloques.
Quel est le mode d'emploi?
Quoi?
Pour m'occuper de...
Quel mode d'emploi? De venir au cours de Tania.
Alors, voilà, pardon. De venir, voilà, docteur en sciences... il faut venir écouter les... en vous sciences humaines.
Non, c'est le Tania.
Que tout le monde, il veut arriver à ça.
Il y a des gens... Non,
ça se travaille.
Bah, pas du tout. Il y a des gens qui sont très très loin, qui ne cherchent pas ça. Ils cherchent pas ça.
Ça se travaille.
Ils cherchent pas ça. Alors,
il faut rentrer dans les profondeurs.
Ce qu'il veut te dire ici, c'est qu'en vérité, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est pourquoi on a peur? Pourquoi on est angoissé? Parce que tu dis, mais attends, je dois tout changer, je dois tout arrêter, c'est impossible, je n'arriverai jamais. On te dit, non, tu ne vas pas tout changer. Tu vas simplement laisser ta neshama s'exprimer. Après, laisse-la, elle, faire le travail. Tu as déjà un moteur en toi qui est déjà prêt à décoller, mais tu le bloques. Laisse-le juste parler. Et tu vas voir tout seul. Lui, il est déjà prêt à partir. Il est déjà en train de tourner. C'est comme le volant, il a tourné. La roue, elle veut tourner, mais tu mets un mur devant la roue. Alors la roue, elle force, mais elle n'arrive pas. On dit juste, enlève le mur. Laisse-la tourner. Elle va tourner. Elle est déjà en train de tourner.
Il faut apprendre.
Quand? T'inquiète pas, elle tourne tout seul. Conduit tout seul. C'est comme ça que ça marche.
On a la flemme,
Quand? Mais c'est déjà, pour moi, c'est un chapitre très très important, ce chapitre-là, parce que c'est un chapitre qui t'explique qu'en vérité, t'as pas besoin d'être un érudit pour y arriver. Tu as ça en toi. Toute personne a ça. Ça n'existe pas. Un juif au monde qui n'a pas ça. Il n'y a pas. Le juif le plus loin possible de la Torah, il a ça en lui. C'est sûr qu'il a ça en lui, à son niveau. Et ça, Ve'alken, on va s'arrêter là. Ve'alken, c'est pour ça. Zachou le'amshir nefesh ruach neshama livnei machariam adolam. Mais eser sfirot de kdusha shebe'arba olamot atzilut re'ayitir asiya. Lechol echad ve'echad kifi madrigato ou kifi ma'asav. Puisque les patriarches étaient comme ça annulés devant un Kadosh Baruch Hu, alors Dieu leur a donné un cadeau. Dieu leur a dit, vous aurez cette capacité de donner cet héritage, pas seulement à ceux qui sont comme vous, mais à tout le monde. J'explique ce qu'il veut dire, c'est très puissant ce qu'il dit ici. Normalement, Abraham avait un style particulier. Il avait un style. D'accord, c'est une personne qui avait un style particulier, intellectuel, philosophe, qui se recherche, etc. Normalement, il aurait dû donner cet héritage-là seulement aux personnes qui ont le même style que lui. C'est comme on voit par exemple des parents et des enfants. Quand t'as des enfants qui sont comme leur père, alors eux, effectivement, ils vont continuer comme leur père. Mais t'as des enfants qui n'ont pas la même nature que leur père, donc ils vont pas continuer comme leur père. Comment ça se fait que t'es en train de me dire que tous les juifs, ils suivent la même lignée qu'Abraham? On n'est pas tous comme Abraham. Il y a des gens qui sont plutôt intellectuels, il y a des gens qui sont plutôt sentimentaux, il y a des gens qui sont plutôt rigoureux, il y a des gens qui sont plutôt bons, des gens qui sont plutôt... Il y a plein de types. Comment c'est possible de dire qu'Abraham Avinu, il a réussi à faire hériter ça à tout le monde, sans exception? Réponse de la Gemara Zaken. Il se dit parce que Abraham Avinu, quand il a craint et aimé Akadosh Baruch Hu, il l'a pas fait avec sa volonté. Il a atteint un tel niveau que c'est même plus lui qui parlait. Il était complètement annulé vers Akadosh Baruch Hu. Comme il a atteint un niveau qui est tellement fort, alors ce niveau-là, il est passe-partout. Si Abraham Avinu, il avait aimé Akadosh Baruch Hu seulement avec son style, sa conception, sa manière de voir les choses, ça, il aurait pu le faire hériter seulement aux gens qui sont comme lui. Celui qui est pas comme lui, il peut pas hériter. Mais comme Avraham Avinu, il a atteint un niveau beaucoup plus fort. Au début, il a servi Dieu avec sa conception. Mais après, il a atteint un niveau qui est tellement fort qu'il a même plus sa conception. C'est qu'il est annulé à Dieu. Et tout ce qu'il dit, c'est que quand Dieu demande de faire quelque chose, on le fait, on se pose même pas la question si on va le faire. Comme un soldat. On me demande de le faire, je le fais, je me pose pas de question. Quand Avraham Avinu, il arrivait à ce niveau-là, eh ben, automatiquement, Dieu lui a dit, puisque toi, tu as fait sans calcul et que maintenant, tu te poses même plus la question, je vais te donner le sroud que tous tes enfants, peu importe le style qu'ils auront, ils auront le même niveau que toi, qu'un juif, au fond de lui, il a une neshama qui veut communiquer avec Akadosh Baruch Hu, peu importe son niveau. Seulement. Et là, on va s'arrêter là. Mais je vous donne un preview de ce qu'on va faire la semaine prochaine. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est une question très simple. Il va dire, mais concrètement, si tu me dis qu'on a un moteur qui est tellement fort en nous, pourquoi il décolle pas? Qu'est-ce qui le bloque? Et surtout, qu'est-ce qui explique qu'il y a des moments dans la vie dans lesquels il décolle et des moments dans lesquels il décolle pas? Par exemple, on va prendre l'exemple du juif de Kippour, mais en vérité, chacun de nous, on peut trouver un exemple de ça en nous. Le juif de Kippour, ce moteur-là, il va décoller quand chez lui? À Kippour, et après Kippour, et ça repart. Pourquoi? Si le moteur, il a décollé, pourquoi il reste pas développé? Pourquoi il s'arrête? C'est-à-dire qu'il faut rentrer maintenant plus dans les profondeurs de ce moteur qu'on a en nous, qui est là, ça, on peut pas remettre en cause, mais que, il faut comprendre le système de fonctionnement. Pourquoi? Des fois, il est en fonctionnement, des fois, il n'est pas en fonctionnement. Mais déjà, le fait même de savoir qu'il y a un moteur, c'est déjà énorme. Il y a un moteur, il y a un amour caché, il est là, mais des fois, il marche, des fois, il marche pas. Des fois, il s'exprime, des fois, il s'exprime pas. Pourquoi c'est comme ça? Alors ça, on va devoir expliquer ça la semaine prochaine. Et quand on va comprendre qu'est-ce qui permet à ce moteur de se déclencher, je pourrais vous dire qu'on va arriver à une conclusion que c'est impossible qu'un juif va dire « je peux pas y arriver ». Ça n'existe pas. Le mot « je peux pas y arriver », il faudra l'enlever du vocabulaire parce que c'est impossible.
Oui, monsieur.
Le mot « impossible » n'existera pas. Parce qu'on a ça en nous.
Tu as ouvert là tout à l'heure pour la pizza, là, on peut y aller.
Rien n'est impossible.
Que pour vous, je veux...
Ah, c'est gentil.
Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui.
À quoi ça sert les neshama?
Alors, très bien. Donc là, maintenant, on a commencé à répondre à la question. À quoi sert la neshama? La neshama sert, pour l'instant, à communiquer avec Akadosh Baruch Hu, communiquer dans le sens que avoir envie, de faire les choses sans même avoir de raison. Un juif, il a envie, au fond de lui, de croire en Dieu sans même avoir de raison. Si vous voulez, c'est comme un moteur, comme quelque chose qu'on met de série dans une personne. Tu peux même pas maîtriser.
Mais si on sait ça à l'avance, si on sait ça à l'avance, si on n'a pas besoin de communiquer.
Non, mais la seule différence, c'est que cette neshama-là, elle s'exprime pas forcément dans le corps. Et mon travail, c'est de la laisser s'exprimer dans le corps. C'est tout. Elle est déjà là, tout est déjà là. Le corps est là, la neshama est là, tout est là. Mais le problème, c'est qu'elle arrive pas à s'exprimer dans le corps. Mon travail, c'est pas de créer une neshama. C'est pas de devenir religieux.
Non, mais...
Attendez, c'est très important ce que je veux dire. Mon travail, c'est pas de devenir religieux. D'accord? C'est de faire ressortir le religieux que j'ai en moi. Parce que je suis déjà religieux. Il y a pas un juif au monde qui est pas religieux. Ça n'existe pas. Seulement, il le sait pas. Alors, il faut lui expliquer qu'il est religieux. Il faut que ça ressorte. Il faut l'aider à faire ressortir le tzaddik qui est en lui. Et ça sort.
Il a dit, je veux faire sortir le religieux.
Non. Ressortir.
Il m'a dit c'est pas.